Bonjour à toutes et tous. L'apôtre Paul, il disait, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressusciteront point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Lecture de 1 Corinthiens 15, 13 à 19. Il y a tout juste 2 semaines que nous avons fêté la Pâque pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fondation de notre foi. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Et l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Oui, la mort ne peut pas anéantir notre espérance en Dieu. La mort est engloutie dans la victoire. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Sommes-nous parmi les heureux ou les malheureux? Dans ce monde, nous vivons avec des personnes comme dans une bulle d'illusion. Tout semble être heureux. Même certains chrétiens semblent être heureux et satisfaits avec des bénédictions matérielles et qui sont prêts à vendre leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. De temps en temps, il serait profitable pour nous de nous poser cette question. Suis-je un vrai chrétien, un disciple de Christ, qui suit Jésus-Christ en portant sa croix? La foule des gens qui criaient Hosanna à Jésus n'ont pas suivi Jésus jusqu'à Golgotha. Même ses propres disciples ont oublié ce que le Seigneur avait dit par rapport à sa mort et sa résurrection. Tout semble être terminé avec la mort de Jésus. Vendredi soir, le corps de Jésus a été mis dans le tombeau. Samedi soir, après le sabbat, les femmes ont préparé des épices pour embaumer le corps de Christ, inanimé, pour le lendemain matin, le premier jour de la semaine. Aucun de ses disciples n'a pu penser que l'histoire de Jésus se terminerait ainsi. Mélange de peur, de confusion et de désespoir pour les disciples qui étaient assis dans les ténèbres pendant ces 3 jours après la mort de Jésus. Et nous allons prendre un très beau passage de la Bible. Prenez avec mon livre de Luc. Évangile de Luc, le dernier chapitre, le chapitre 24, Luc 24. Notre texte pour ce matin, c'est à partir du verset 13 jusqu'à 35, mais on va quand même lire à partir du premier verset. Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant ? Mais cette question reste toujours la vérité. Pourquoi cherchez-vous le vivant ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Le verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze. Judas Iscariote, il est parti, il est mort, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Maintenant, le verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils l'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. » Verset 22, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous n'ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. » Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce que le concernait. » Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ça, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, l'aide-nous à comprendre le message qu'il a pour nous ce matin. Le verset 13, « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Les femmes se rendirent au grand matin au sépulcre pour embaumer le corps de Christ. Et elles ont trouvé le tombeau ouvert et le corps de Jésus n'était pas là où les disciples l'avaient posé. Les anges annoncent qu'il est ressuscité et leur demandent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant ?» Mais pourtant, Jésus l'a parlé pendant sa vie terrestre, ce que ça va arriver, il va ressusciter le troisième jour. Et pourtant, il est allé chercher parmi les morts le vivant. L'ange dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Elles vinrent annoncer la bonne nouvelle aux apôtres et aux autres disciples, mais ils ne les ont pas cru. Seuls Jean et Simon-Pierre courent pour aller vérifier au sépulcre. S'étant baissés, ils ne virent que le linge qui était à terre, puis ils s'en allèrent chez eux dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour. Notre histoire commence ici. La journée semble bien être chargée. Même pour nous, la journée de Pâques était bien c'était bien chargé, mais le jour de vrai Pâques, c'était bien chargé. Certainement au milieu de l'après-midi, ces deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. L'évangéliste Luc nous dit, deux disciples, et nomme l'un comme Cléopas, et ne nous donne pas le nom de l'autre. Ces deux n'étaient pas parmi les 12 disciples de Jésus qu'on appelle les apôtres. Comme ces trois femmes qui sont allées au sépulcre tôt le matin, ils étaient peut-être parmi les 70 que Jésus a envoyés deux par deux pour que l'évangéliste Luc mentionne dans son évangile ailleurs. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Emmaüs était un petit village à l'ouest de Jérusalem, d'une distance d'environ 11 kilomètres. 60 stades, la mesure de cette époque, aujourd'hui ça pourrait être 11 ou 12 kilomètres. Après avoir entendu cette nouvelle qu'on n'a pas pu trouver le corps de Jésus au sépulcre, triste et abattu, chacun décide de rentrer chez lui. Vous voyez, apôtre Pierre, quand il a vu le corps de Jésus, il n'était pas là, il rentre chez lui, c'est ce que la parole nous dit. Et ses deux disciples aussi, ils décident de rentrer chez eux. Peut-être Emmaüs était leur village. Et pendant le chemin, le verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui était passé. Est-ce qu'on arrive à imaginer cette scène? Ça peut faire un beau tableau. Deux personnes en train de marcher dans la fin d'après-midi, quand le soleil il est en train de se coucher. Ils suivaient le Seigneur Jésus durant toutes ces années. Il était avec lui et était des témoins oculaires de tous les miracles et prodiges qu'il a opérés. Il espérait qu'il libérera Israël de l'Empire romain. Hélas, il était crucifié sur une croix comme un criminel et mort comme n'importe quel homme. Et voici trois jours. Et maintenant, nous ne trouvons même pas son corps. Le chemin de 11 kilomètres devait être long, surtout à cette époque-là. On n'avait pas le métro ni le tram. Imaginez marcher 11 kilomètres sans le véhicule motorisé, une bonne marche de plus de 2 heures. Et il entretenait de tout ce qui s'était passé. Il y a une beauté extraordinaire dans ce passage de la Bible. Le moment est triste. Dans la fin de l'après-midi, deux personnes marchent sur le chemin solitaire qui mène vers Emmaüs en train de discuter des choses qui pèsent lourd dans leur cœur. La Sainte Communion entre deux disciples de Christ. Il y avait de la tristesse et de la confusion dans leur cœur, mais il était pleinement rempli de la pensée de Dieu. Arrêtons-nous un peu sur ce chemin d'Emmaüs. À quand remonte la dernière fois que vous avez discuté avec un autre chrétien des choses concernant le Seigneur avec une telle passion? On est tous très occupés. Quand est-ce que la dernière fois vous avez discuté passionnément les choses concernant la parole de Dieu? Avons-nous fait chemin avec un autre disciple de Christ? Prenons-nous le temps pour faire le chemin avec un autre chrétien, avec un autre disciple de Christ. Nous voyageons tous sur le même chemin, le long chemin étroit. Si nous avons le même maître, si nous avons la même destination, nous voyageons sur le même chemin, long chemin étroit. La culture d'aujourd'hui nous impose de boucher nos oreilles avec ce qu'on appelle des écouteurs. Surtout le moins âgé pour les rendre sourds à toute discussion. C'est impossible de parler, n'est-ce pas? C'est décourageant pour parler avec une autre personne qui a l'écouteur. On a le sentiment de déranger cette personne. Cette course folle avec le monde peut nous rendre inaccessibles et insensibles aux besoins des autres. Il peut nous empêcher de réfléchir. Je pose cette question à nos jeunes qui, qu'écoutez-vous? Pas seulement les jeunes, mais aujourd'hui, et les moins jeunes aussi, ils font ça. Qu'est-ce que nous écoutons? Et je pense que nous devrions avoir un moment de silence dans le cœur pour écouter la voix du Seigneur, pour méditer. Si notre cœur est rempli de bruit toute la journée, quand est-ce que vous pouvez avoir cette sainte communion avec le Seigneur? Le verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pouvons-nous imaginer ce qui se passe ici? Le Seigneur Jésus lui-même vient derrière eux et les rejoint sur le chemin. Je ne sais pas, il a vraiment marché parce qu'il avait un corps glorieux maintenant. Est-ce qu'il a couru derrière eux? Il n'avait pas besoin. Et il vient subitement, il vient derrière eux, et il rejoint sur leur chemin. Dieu tient toujours sa promesse. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit ça, n'est-ce pas? Jésus a écouté leur conversation, qui suscite de la préoccupation de leur cœur. Ils décident de faire le chemin avec eux. Quelle grâce! Regardez le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus, leur maître. J'ai mal à croire comment on peut marcher avec lui pendant 3 ans et demi, être ses disciples, vu toutes ces choses qu'il a fait, mais pourtant de ne pas pouvoir reconnaître leur maître. Imaginez si vous me regardez dans le marché de Saint-Denis un jour, moi je ne vous reconnais pas, comment vous allez sentir? C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais pourtant, et pour quelle raison? Certes, le Seigneur Jésus avait maintenant, après sa résurrection, un corps glorieux. Je ne pense pas qu'il avait une autre forme. Je lis de Actes 1, 10 à 11, je vais lire pour vous. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je pense qu'il avait il aurait la même forme. Et Jésus, il avait la même forme. Je pense qu'il nous ne suffit pas d'avoir les yeux pour voir. Pas tout le monde qui a des yeux, il peut voir les choses. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Dit Jérémie, Jérémie 5, 21. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Et Jésus lui-même, réprimande ses disciples, « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? » C'était quand les disciples ils viennent pour dire à Jésus, « Il y a beaucoup de personnes, comment tu peux nourrir toutes ces personnes ?» Et avant ce miracle, Jésus, il réprimande ses disciples, « Avez-vous le cœur endurci ?» Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Mais pourtant, les disciples ont vu tout ce que Jésus il a fait. Ils savent ce qu'il est capable de faire. Quand j'ai rompu le 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12 lui répondirent. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7 répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Et c'est juste après qu'il a guéri cet aveugle, il demande d'aller laver au étang de Siloé. Non, ces deux sur le chemin d'Emmaüs n'étaient pas des aveugles. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qui les a empêchés? Est-ce que Dieu les a empêchés? Jésus les a empêchés de lui voir? Je ne pense pas. Je pense plutôt à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne voyaient pas. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ils avaient oublié tout ce que le Seigneur avait dit par rapport à sa mort et sa résurrection 3 jours après. Le Seigneur, très clairement, il a répété plusieurs fois qu'il devrait mourir et il va ressusciter le 3e jour. Rappelons-nous que Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et fermé les yeux de Balaam pour qu'il ne voie pas l'ange de l'Éternel. Dieu fait un miracle. Il a ouvert la bouche de l'ânesse et fermé les yeux de Balaam pour qu'il ne voie pas de l'ange de l'Éternel. Pourquoi? C'était à cause de l'endurcissement de son cœur. Si nous sommes ici ce matin avec un court aide et un cœur endurci, nous ne pouvons pas reconnaître Jésus-Christ dans sa parole. L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé, dit le psalmiste, psaume 34. L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur dur, un cœur qui n'est pas brisé. Oui, mes chers frères et sœurs, quel est l'état de notre cœur ce matin? Que les écailles qui nous empêchent de voir Jésus, notre Sauveur, tombent. Verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Jésus n'avait pas besoin de se rapprocher d'eux pour écouter leur conversation. C'est le Dieu lui-même qui prend ce chemin des hommes. Et ce n'est pas grand-chose que l'homme il a marché sur la lune. Ce que Dieu il a marché sur la terre est plus grand merveille que l'homme il a marché sur la lune. Tout-puissant et omniscient, en Colossiens 2, 9, nous lisons « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous voyez Jésus ?« Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Dieu a-t-il vraiment besoin de poser des questions pour avoir la connaissance ? Nous, souvent, nous posons des questions pour connaître sur quelque chose. Si nous ne connaissons pas un sujet, nous sommes obligés de poser des questions pour connaître. Mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de poser des questions pour connaître ? Non. Il est omniscient. De quoi vous entretenez pour que vous soyez tout triste ? S'il pose cette question, c'est pour que nous puissions connaître l'état de notre cœur. Si Dieu nous approche pour poser cette question, c'est pour que nous puissions connaître l'état de notre cœur. Il voulait connaître la raison de leur tristesse. Aux tendresses infinies, amour mystérieux. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les disciples étaient tout tristes parce qu'ils ne croyaient pas sur la résurrection véritablement. Mais est-ce que les amis d'époux peuvent-ils l'affliger pendant que l'époux est avec eux? Bien souvent, nous, les disciples de Christ, nous portons la tristesse sur nos visages. Nous oublions que Jésus est avec nous et qu'il fait le chemin avec nous, même si la route est rude et sombre. Chantons comme David. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regardez le verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, le dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Luc mentionne le nom de l'un de ses deux disciples comme Cléopas. Comme nous avons déjà vu, il n'était pas parmi les 12, mais la parole nous dit qu'il était un disciple de Jésus. Pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu donner son nom ici, je ne sais pas. Pourquoi le nom de l'autre n'était pas mentionné, je ne sais pas non plus. Certains pensent que l'autre pourrait être l'auteur de l'évangile de Luc lui-même. Et d'autres pensent qu'ils sont un couple, Cléopas et sa femme Marie. Peut-être originaire d'Emmaüs. En tout cas, son nom apparaît seulement dans ce texte de l'évangile de Luc. Nous ne trouvons nulle part ailleurs. Le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Ici, les deux disciples dévoilent le secret de leur cœur. Pourquoi ils sont tristes? L'espérance qu'ils ont nourrie pendant ces trois dernières années, où il était avec Jésus, leur espérance charnelle était tout contraire à la volonté de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Même si le Seigneur Jésus a répété maintes fois, les disciples n'ont pas pu capter ce message divin. Ils voulaient absolument faire le Messie qui va libérer son peuple, le peuple de joug romain. Dieu dit, mes pensées ne sont pas le vôtre. Et parfois, on peut, on dit à côté de la plaque, le Seigneur, il pense quelque chose, et nous, on pense complètement contraire. Nous ne sommes pas du tout en harmonie avec la pensée et la volonté de Dieu. Le verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et t'ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et sont trouvés les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Les autres disciples n'ont pas cru aux paroles des femmes qui se sont rendues au sépulcre au grand matin pour embaumer le corps de Jésus. Je ne connais pas le grec, mais apparemment, dans la langue originale, les disciples ont pris la parole des femmes comme un délire. Délirer avec la fièvre ou, dans notre langue courante, de dire n'importe quoi. C'est un terme médical en grec que délirer avec la fièvre. Pourtant, il leur avait dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 16, 21. Nous avons fêté Pâques, nous avons lu la parole, nous avons écouté des prédications, chanté des cantiques. Croyons-nous véritablement que le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité et qu'il vit dans nos cœurs? On peut écouter plusieurs fois la parole de Dieu. Mais est-ce que nous croyons dans la profondeur de notre cœur que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Il vit aujourd'hui. Il vit dans le cœur de ses enfants. Verset 25. Alors Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? On a vu que c'était environ 2 heures de marche sur le chemin d'Emmaüs. Jésus écoutait les lamentations de nos 2 amis tout en marchant avec eux. Pendant 2 heures, vous imaginez? Ces 2 disciples ont pris Jésus pour un étranger. Et Jésus prend la parole et les réprimande. Aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Nous sommes naturellement sans intelligence, sans la révélation de la parole de Dieu. Nous avons du mal à comprendre ce qui est dit dans la parole. Vous savez, dans l'évangile de Jean, nous lisons ainsi, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » On a la parole, mais on n'a pas appris la parole. On n'a pas compris la parole. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. En Marc 8, 31 à 32, nous lisons, Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. On ne peut pas être plus clair que cela. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de comprendre que Jésus-Christ, il est vraiment ressuscité? De croire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité après 3 jours? Et le verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. » Comme un parent qui ne cesse d'apprendre à son enfant qui oublie, comme un enseignant qui répète une leçon, Jésus commença à leur apprendre et expliquer toutes les Écritures qui le concernaient. Le Seigneur, il est patient avec nous. Je pense que parfois, la question des enfants, le tout petit, peut irriter un parent. Même la question sincère d'un élève peut irriter un prof. Mais Jésus, il explique avec une patience énorme. Il explique toute l'Écriture. On voit la miséricorde de Dieu. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Isaïe 42, 3. C'est peut-être la plus longue prédication de Jésus et jamais enregistrée dans la parole. Pendant 2 heures, je pense que si la prédication dépasse 1 heure, je pense que moitié de la salle sera vide. Mais Jésus, il était en train de parler avec eux pendant plus que 2 heures. Mais cette prédication, ce n'est pas enregistré dans la parole. Le Seigneur nous laisse d'imaginer ce qu'il aurait pu enseigner, expliquer. Je pense que cela pourrait être un très bon sujet pour notre méditation seule avec le Seigneur. Qu'il ait dit qu'il était le Rédempteur promis dans le livre de Genèse, l'agneau de Pâques en Exode, le souverain sacrificateur de Lévitique, qui soit devenu la malédiction du péché pour nous en Deutéronome, notre libérateur en Juge, notre Rédempteur avec le droit de nous racheter en Ruth, le prophète en Roi et 1 Samuel, roi de la grâce et de l'amour dans le deuxième livre de Samuel, et plus encore, il est plus grand que Salomon, le prophète tout-puissant, le fils de David, qui régnera à jamais, celui qui restaurera ce qui est brisé, celui qui gardera son peuple, le médiateur entre Rome et Dieu en Job, notre sagesse dans le livre de Proverbes, le serviteur souffrant en Isaïe, le Messie qui pleure en Jérémie, le fils de l'homme en Ézéchiel, l'époux fidèle d'une épouse infidèle, en Amos, celui qui rend justice aux opprimés, le Messie qui est percé pour nous en Zacharie, le soleil de justice qui guérit en Malachie. Où il avait pris le psaume 22 pour parler de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Ou le Isaïe 53. Certainement, ce sera une belle pensée pour faire notre méditation. Ce que le Seigneur il a dit pour expliquer la parole des prophètes, de Moïse. Regardons ensemble le verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin. Donc ils s'approchèrent. Ils sont au bout de chemin. Ils s'approchèrent du village, et Jésus il fait semblant de continuer son voyage, aller plus loin. Et je pense que c'est selon la coutume de Moyen-Orient, on n'accepte pas facilement si quelqu'un accepte facilement l'hospitalité. On devrait faire le semblant à la table si on est en train de vous servir. Si le hôte il veut servir plus, vous devrez dire non. Dire oui, ça peut être mal poli, ça peut être mal vu. Ça, c'est le coutume, c'est la culture du Moyen-Orient. Donc, Jésus, il était un homme de Galilée, il fait semblant comme si qu'il allait plus loin, comme si qu'il va continuer le voyage. Le verset 29, mais il le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et entra pour rester avec eux. » Et là, ces deux hommes, après avoir entendu ce que Jésus, la parole de Jésus, ce qu'il expliquait, ils pressèrent Jésus d'entrer avec eux. Et moi, j'avais dit au départ que Le village d'Emmaüs se trouvait à l'ouest de Jérusalem. Donc, ils voyageaient vers l'ouest. Donc, le soleil se couchait à l'ouest. Donc, c'est peut-être pourquoi il n'arrivait pas à voir le visage de Jésus. Il n'a pas pu reconnaître aussi. Ça peut être une autre cause. Mais la première cause, c'est l'endurcissement de leur cœur. Et ils pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Jésus ne force pas son entrée dans le cœur des gens. Il attend qu'on l'invite dans notre vie. Et ces deux personnes, et certainement, personnellement, je pense que c'est peut-être Cléophas et sa femme, c'est leur maison. Ils ouvrent leur maison, ils invitent Jésus pour venir rester la nuit avec eux. Et Jésus entre avec eux pour rester avec eux. On ne peut pas imaginer que Dieu Sauveur, qui s'est fait homme, il vient rester avec les hommes. Quelle merveille! Et quelle grâce d'avoir Dieu entrer dans notre maison. Le verset 30, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna. » Donc, c'était le soir, le soleil s'est couché, c'était le temps de repas, ils préparent le repas, ils ont mis le pain, et normalement, Jésus, il n'est pas l'invité. Et il est l'invité. Il n'est pas le hôte. Mais ici, Jésus il prend la place d'un hôte. C'est lui qui, peut-être, Cléopas, il a demandé à Jésus de prier, rendre grâce pour le repas. Mais c'est lui qui prend le pain, il donne à ses hôtes. C'est un peu étonnant cette scène. Et Jésus sera toujours notre hôte, même chez nous, même dans cet temple. Et nous sommes chez lui. Et quand il entre chez nous, il prend la place qu'il mérite. Et donc, il prit le pain et après avoir rendu grâce. Ça, c'était le coutume. Il prend le pain, après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Et le verset 31, c'est le verset clé de ce passage. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est quand il a pris le pain, il a rompu. Quand il a rendu grâce, il a rompu. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Parce que le Seigneur, ce n'est pas la première fois qu'il a fait cela. Il a déjà fait. Certainement, il a une manière de faire, de rompre le pain. Ils ont vu ses mains percées. Ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ, le Seigneur. Et jusqu'à là, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Mais le moment où il a rompu le pain, ils ont pu voir. Il n'avait pas besoin d'être là. Sa parole était là, mais sa présence n'était pas besoin parmi eux. Et il disparut devant eux. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'était, ils ne disent pas en référant à le dîner. Quand il a pris le pain, il a rompu le pain, ils ne disent pas que notre cœur brûle-t-il pas. Mais ils disent lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, ce que la parole de Dieu peut faire à notre cœur. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu avec un tiédeur? Comment, dans quelle manière nous écoutons la parole de Dieu? Comment nous prenons la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un feu qui s'allume dans notre cœur quand nous écoutons chaque fois la parole de Dieu? Quand nous lisons la parole de Dieu? Quand nous sommes en sainte communion avec le Seigneur? Ici, il y a une belle image de sainte communion du Seigneur avec ses enfants. Et le verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. » Mais je pense que ce n'est pas possible. Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Vous imaginez marcher pendant plus que 2 heures, et ce n'était pas un chemin pavé, hein, et c'est dur de marcher. Il vient, et pourquoi ils ont demandé à Jésus de rester avec eux? Parce que c'est difficile et dangereux de voyager pendant la nuit, dans le ténèbre. C'est un chemin difficile. Mais ces disciples, quand le cœur s'allumait, quand il y avait une feu qui s'allumait dans leur cœur, et quand ils sont reconnus que c'était le Seigneur, quand ils ont reçu la parole dans leur cœur, quand ils ont vu que le Seigneur il est vraiment ressuscité, ils ont tout de suite refait le chemin de 2 heures ou plus pour aller à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle, que le Seigneur il est ressuscité. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et le verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ça, c'était le moment crucial. Quand le Seigneur a rompu le pain, les disciples ils ont pu reconnaître que c'était le Seigneur. Donc, je demande pourquoi le Seigneur il a fait ce chemin. Pourquoi, quelle obligation il avait pour aller expliquer à ces deux personnes sur un chemin solitaire quel était le besoin pour lui pour faire tout cela. Et si nous cherchons le Seigneur, il est près de nous. Il est près de nous, tout près de nous. Pendant 40 jours ayant séparé la crucifixion de son ascension, Jésus est apparu plusieurs fois à 500 de ses disciples ainsi qu'à d'autres. Il est d'abord apparu aux femmes près de la tombe lorsqu'elles sont venues préparer son corps pour la sépulcre, puis à Marie Madeleine, à qui il a déclaré qu'il n'était pas encore monté au ciel. Il a traversé un mur et est apparu aux disciples à Jérusalem, où il s'est également fait connaître à Thomas, qui doutait auparavant de sa résurrection, ainsi qu'en Galilée, où ils ont vu un autre miracle. Bien qu'il ait eu pêché toute la nuit sans rien attraper, Jésus leur a dit d'abaisser leur filet dans la mer une fois de plus, et ces filets se remplirent de poissons. Jésus leur prépara le petit déjeuner et leur apprit des vérités très importantes. Pierre a reçu l'injonction de paître les brebis du Seigneur et s'est entendu annoncer de quelle manière il allait souffrir. À ce moment-là, ils ont aussi reçu la grande commission. Jésus est encore apparu cette fois-ci aux deux hommes qui étaient en route vers Emmaüs, comme il a mangé avec eux, et leur a parlé et les a reconnus. Les hommes sont revenus à Jérusalem, ont trouvé les disciples et rendu témoignage de leur rencontre avec Jésus. Donc Jésus, il a déclaré, il a fait connaître la vérité de sa résurrection à ses disciples d'une manière particulière à chacun. Si Thomas, dans la première fois quand il est entré dans la chambre haute, Thomas il n'était pas là. Il revient encore une fois, puisque Thomas il peut croire. Parfois, en tant que des enfants de Dieu, on peut avoir le doute, mais J'espère que nous n'avons pas le doute sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais on peut avoir le doute. Il y a des moments de doute dans la vie chrétienne. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, et si nous voulons qu'il vienne, si nous prions qu'il vienne nous expliquer, je pense que le Seigneur, il est tout près de nous pour nous expliquer avec patience et pour nous faire comprendre sa volonté. Que le Seigneur bénisse sa parole et à lui soit la gloire. Amen.